Chai Chalençon.
Bonjour, Shabbat Shalom, tout va bien?
Tout va bien, Baruch HaShem, Boker Tov à vous. Et donc, comme tous les vendredis, Mordechai Chalençon, nous allons nous intéresser à la paracha de la semaine qui, je me suis laissé dire, avait pour titre « Réel ». C'est bien ça?
Exactement.
Alors, moi, je ne vais pas vous faire l'injure de vous expliquer la paracha, vous êtes là un petit peu pour ça, et j'aimerais bien que vous me l'expliquiez en long, en large et en travers.
Voilà. Alors la paracha est quand même assez intéressante puisqu'elle commence avec un des sujets les plus importants dans la vie de tous les jours, c'est le libre arbitre, puisqu'on commence avec cette phrase « Regarde, vois devant toi ce que l'on place devant toi, la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction, le choix entre le bien et le mal. » Et Hachem nous dit, Dieu nous dit « Choisis le bien s'il te plaît. » C'est-à-dire qu'il nous dit « Je te donne les deux possibilités, c'est vraiment toi qui a le libre arbitre de choisir. » Alors après, tout le monde sait qu'on a un petit peu le libre arbitre. Alors c'est un sujet qui est assez profond parce que le libre arbitre reste quand même assez petit puisque Dieu sait tout. Donc qu'est-ce qu'il nous a laissé quand même? C'est quand même très fin. Mais en fin de compte, on a quand même un choix. Et c'est là que le peuple juif dit « Ok, c'est gentil, tu nous as donné ce choix, mais qu'est-ce qui est vraiment bien et qu'est-ce qui n'est pas bien ?»
C'est ça la difficulté, en fait.
Comment je peux savoir aujourd'hui ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, quoi.
Vous disiez que c'était assez ténu, le libre arbitre, puisque Dieu sait tout, et donc pour nous, ça laisse un petit choix. Mais même si Dieu sait tout, s'il nous laisse le libre arbitre, même de faire les mauvais choix, ça reste quand même large comme possibilité.
Non, ce n'est pas si large, parce que il y a certaines choses qui sont prévues dans le destin qui ne vont jamais changer.
D'accord.
Donc ça, on ne pourra pas changer. Donc le libre arbitre, sur ce côté-là, ça ne changera pas. Mais par contre, il y a certaines choses qui sont personnelles que notre propre destin pourra changer. Ça, oui. C'est là que le libre arbitre se place. Donc selon nos actes, on pourra amener sur nous plus de bonheur ou moins de bonheur. Mais par contre, sur quelque chose qui est plus, on va dire, général, sur le monde entier, il y a des destins qui sont prévus que quoi qu'on fasse, ça ne changera pas grand-chose.
D'accord.
C'est là que le destin, ça va être plus difficile à changer. Bon, ça peut quand même changer, ça s'est vu dans l'histoire, mais c'est déjà plus compliqué.
Bien, alors à partir de là, comment ça se passe? C'est enfin quand je dis comment ça se passe, entendons-nous bien sûr, hein, ce sont des images chaque fois, mais le bien et le mal, bon ben Dieu fait la distinction à la différence des hommes qui malheureusement ne sont pas toujours capables de le faire. Est-ce que le but c'est de, évidemment, le but final c'est que tout le monde fasse le bien, mais est-ce que c'est surtout que l'homme progresse dans sa capacité à discerner le bien du mal, ou bien c'est juste factuel?
Non, alors c'est très important de pouvoir par soi-même réussir à comprendre. C'est l'importance de l'éducation quand on est petit. Hein. Les parents essayent de montrer à leurs enfants pour qu'à un certain moment, ils puissent par eux-mêmes comprendre et faire leur propre choix. De la même façon, on est tous des enfants tant qu'on n'a pas étudié, tant qu'on n'a pas appris. Et le problème, c'est que quand on essaye de comprendre par soi-même, par notre propre logique, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est déjà pas mal en soi, hein, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on a une vision qui est très 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 petite. On ne voit pas du tout dans le futur ni dans le passé. Et même si on arrive à voir, on ne voit pas très très loin. On ne peut voir qu'avec des yeux qui sont humains, avec une logique humaine. Alors que lorsque on étudie la Torah, on étudie la Bible, on essaye de comprendre un petit peu les lois que la Torah, que Dieu nous transmet, on se rend compte qu'il y a une logique qui est différente des fois et des fois incompréhensible parce qu'elle est beaucoup plus grande que la nôtre. Et on se rend compte à travers l'histoire qu'en fin de compte, ce qui reste éternel, c'est le peuple juif, parce que les Romains, ils avaient leur propre logique, ils pensaient être les maîtres du monde, il ne reste plus rien. Les Grecs, la même chose. Donc toutes les grandes puissances, il ne reste plus rien. Et pourtant, le petit peuple juif, on est toujours présent parce que la logique divine, elle est éternelle. Et le fait de garder le judaïsme et de le transmettre à nos enfants a fait qu'on est toujours présent. Donc il y a quelque chose de divin là-dedans, ce qui n'est pas le cas dans la logique humaine.
Et donc, ça sous-entend aussi, si je vous suis, que finalement, le peuple juif a plutôt bien réussi sa mission de discerner le bien du mal. S'il est toujours là et que Dieu lui a permis d'être encore là après, vous l'évoquiez, la chute de plein de civilisations, eh bien, c'est que Dieu est assez, entre guillemets, content du résultat du fait qu'il ait demandé à son peuple de toujours choisir le bien, ou en tout cas, le plus possible.
Alors oui et non, puisqu'on se rend bien compte, il y a eu des difficultés. Si on regarde un petit peu dans l'histoire de la Bible, on rentre en Israël, et c'est là que les Juifs commencent à trop kiffer, à trop prendre plaisir du moment et de la facilité que l'on a d'être installé en Israël, et ils commencent à fauter, à vouloir se comporter comme les autres, à vouloir avoir un pays comme les autres, et c'est là que commencent les problèmes avec les ennemis qui arrivent nous embêter. Alors, après un moment, ils commencent à comprendre, ils commencent à faire teshuva, ils demandent pardon à Dieu, ils commencent à se recomporter convenablement. Alors, il y a un sauveur qui vient et qui nous sauve, puis après, ils recommencent, puis après, c'est reparti pour un tour, et puis, de génération en génération, ça n'arrête pas, donc, en fin de compte, on ne comprend pas grand-chose, et... et on recommence parce que la facilité,
bien sûr,
c'est toujours la même histoire.
Mais est-ce vraiment, aux yeux de Dieu, j'ai envie de dire, un péché que de vouloir ressembler aux autres, je parle en tant que nation, bien sûr, dans ce qu'elles ont de bon, de ce qu'elles ont de mauvais, évidemment, ben ça c'est valable pour tout le monde, il vaut mieux s'en défaire, mais pour ce qu'elles ont de bon, est-ce que c'est vraiment péché de vouloir se fondre, entre guillemets, dans le moule ?
Bah, c'est ce qui est marqué en fait, c'est simple.
D'accord.
Ne te comporte pas comme les autres, bien sûr, pas dans les choses bien. Dans les choses bien, c'est sûr que c'est bien de se ressembler, d'être présent pour les autres, etc. Mais la question est toujours la même, au début de cette paracha, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est ça le problème. Quand on essaie de se comporter selon la logique des autres et pas selon la logique divine, alors il y a un problème. Parce que quand on commence, par exemple, à se dire « Oui, mais on va faire comme tout le monde, on va ouvrir les bus Shabbat, on va ouvrir les magasins Shabbat, etc. » Alors, ça peut être très bien pour beaucoup de monde, mais ce n'est pas la logique divine. C'est ça le problème. C'est
d'accord.
Ça.
D'accord. Bah, écoutez, moi, je vous écoute religieusement, c'est le cas de le dire, et c'est intéressant. Mais c'est vrai que finalement, bien le jour de repos hebdomadaire, et c'est une invention entre guillemets, ça a été créé par le peuple juif, on le sait, puisque Dieu s'est reposé le septième jour et que c'est comme ça qu'on peut parler de repos hebdomadaire. Les autres religions l'ont également adopté, mais à des jours différents, évidemment.
Exact. Exact.
Donc, en définitive, Rav Mordechai Chalençon, cette paracha, et je me souviens, pour en avoir entendu parler, on disait, tu n'auras pas d'idole, puisqu'on sait qu'au moment de la réception des tables de la loi, eh bien, la deuxième table de la loi a été écrite, parce qu'en descendant avec les premières tables de la loi, Moïse avait constaté que le peuple adorait le veau d'or, et donc, voilà, c'était contraire à tous les préceptes. Est-ce que l'idolâtrie aujourd'hui est encore présente dans le peuple juif, vous pensez, ou bien on est vraiment tout à fait monothéiste d'une certaine façon?
Alors il y a plusieurs niveaux dans l'idolâtrie. Hein. L'idolâtrie comme c'était le cas avant n'existe plus. Le fait d'avoir cette envie tellement pressante de vouloir se prosterner devant une statue, elle est beaucoup moins présente qu'avant, même si elle est toujours existante, puisque la preuve, il y a encore certaines religions qui se prosternent devant des statues, hein. Que ce soit le bouddhisme ou même le christianisme, puisqu'ils se prosternent devant la statue. Donc ça existe, mais elle est beaucoup moins, elle est beaucoup moins forte, comme c'était le cas dans les générations précédentes. Par contre, l'idolâtrie en soi, c'est quoi ? C'est se dire, Dieu existe, ok, pourquoi pas, mais c'est pas lui qui gère le monde. Et donc, je me prosterne devant celui ou celle ou la chose qui va m'amener à pouvoir mieux vivre. C'est ça l'idolâtrie.
D'accord.
Donc, en fin de compte, ça existe toujours. Quelqu'un qui se prosterne devant son avocat, devant un juge, devant un président, devant son argent, qui pense que c'est plus important que Dieu, que c'est à lui ou à elle ou à cette chose qui va lui permettre de trouver un bonheur plus facilement. Alors que ce n'est pas le cas. C'est ça l'idolâtrie aujourd'hui.
D'accord. Et donc, ben, de ce point de vue-là, il faut que chaque juif de par le monde fasse d'une certaine façon un petit peu son bilan et puis sache s'il est idolâtre ou pas d'une certaine manière.
Oh, on va pas appeler ça comme ça, ce serait méchant, mais c'est le travail, on va dire, c'est l'épreuve que l'on a tous aujourd'hui. Mais attention, c'est pas que le peuple juif, c'est dans le monde entier. Aujourd'hui, on est tous attachés à quelque chose et ça a toujours été le cas à travers les générations. Si ce n'était pas les statues, ce sera autre chose. Donc c'est à nous de travailler sur soi-même pour réussir à se rendre compte que celui qui gère le monde, c'est Dieu. Et que si on a besoin de quelque chose, c'est à lui qu'il faut demander.
D'accord. Bah, c'est une chouette conclusion pour cette paracha de la semaine, Mordechai Chalençon. Merci beaucoup d'avoir, comme chaque semaine, été avec nous en ce vendredi. Profitez bien de vos vacances, puisque vous aussi, vous les méritez certainement largement. On vous retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir. Shabbat shalom à tout le monde.
Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de votre, j'allais dire, petite famille, grande famille. À très vite, Mordechai.
À bientôt, Shabbat shalom.
Shabbat shalom.